France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Serge Rezvani. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Comeau nous parlera du nouveau disque de Lana Del Rey. À 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier. Une lettre de Robespierre à Danton, vendue aux enchères, déclenche la colère des historiens. Loris Chavanette nous en dira plus sur l'importance historique de ce document. 19h50, Affaires à suivre en compagnie de l'anthropologue, danseuse, chorégraphe et pédagogue Léna Blou, en résidence à la Villa Albertine. Le tour est réalisé par Alexandre Fougeron et Sam Bacast, avec Yvan Turc et Dalia à la prise de son. Bonsoir, Serge Rezvani.
Bonsoir.
C'est la sortie d'un album qui nous donne cette belle occasion d'échanger avec vous ce soir. Un album en CD et en vinyle intitulé Chansons pour Lula, qui contient 16 chansons inédites ou introuvables par Dominique à Vincent de Dienne, Léopoldine HH, Philippe Catherine, avec vous également, Serge Rezvani, avec Kali, mais aussi avec... Jeanne Moreau, en deux inédits, on en reparlera. Cette année 2023, qui vous voit fêter votre 95e anniversaire, verra également l'apparition du livre Chansons silencieuses, édition Philippe Rey, avec tous les textes de vos chansons. Trois albums qui vont paraître sous forme digitale. 60 chansons chantées par vous, sont regroupées sous le nom Les années Lula, et puis enfin les partitions musicales de vos chansons inédites, introuvables, seront enfin disponibles sur le site jacquescanetti.com, les productions Jacques Canetti, qui célèbre...
Françoise Canetti. Qui est la maître d'œuvre.
Ouais, qui célèbre de fort belle manière votre anniversaire. Alors, si on rembobine un peu le fil, vous êtes né le 23 mars 1928 à Téhéran, père persan, mère juive émigrée russe. À l'âge d'un an, vous arrivez en France avec votre mère. Jusqu'à l'âge de 7 ans, vous ne parlez que le russe, ce qui va bien avec votre prénom d'enfant, Boris. Et puis, votre mère tombe malade, vous envoie dans un pensionnat. Alors, il n'y a que des immigrés russes, mais c'est là que vous oubliez le russe et que vous apprenez le français.
Elle me met chez des sœurs, à Grasse.
À Grasse.
Et... je me souviens très bien, je suis arrivé où mes petits-enfants tous se moquaient de moi, je ne parlais que le russe. Et quelques temps après, ma mère est revenue me chercher. Et je ne parlais plus le russe du tout, et ne l'ai plus jamais parlé. Et avec ma mère, je n'ai plus pu... D'ailleurs, jusqu'à sa mort, je n'ai pas pu très bien correspondre avec elle. Quoi. C'était vraiment très bizarre. Mais je suis très content de m'être emparé de la langue française.
Oui, nous aussi, on en est contents.
Oui. Non, c'est une langue magnifique.
Bon, votre mère, hélas, meurt quand vous êtes encore très jeune. Vous avez 10 ans et c'est votre père dont la vie est pleine de mystères, pleine de zones d'ombre qui vous récupèrent mais qui vous délaissent aussi régulièrement. Ça et là, vous n'avez pas d'attache matérielle. Et dans votre vie, vous habiterez près de 50 ans dans une maison, la Béate, à la sortie de la garde Freinet, qui n'avait guère de confort.
Si.
Au départ.
Au départ, exactement. Mais c'est une très belle maison italienne, mais dans un lieu où l'électricité n'arrivait pas, où à l'époque les satellites n'existaient pas, donc pas de télévision. Donc c'était une source vive qui coulait, c'était magnifique, quoi, très beau.
Mais on va voir ensemble, en évoquant quelques épisodes de votre parcours, Serge Rezvani, que vous semblez avoir fui le succès toute votre vie dès qu'il apparaissait, mais je me demandais s'il y avait quand même aussi un lien avec ces années d'enfance, l'idée de vivre quand même de peu, relativement à l'écart. Est-ce que ça a un lien ?
En fait, j'aime bien être à côté, si ce n'est rejeté. Comme toute mon enfance, j'ai été rejeté, vraiment. Ça me stimule énormément dans la création, de me sentir isolé, pas aimé, j'en remets, même envers moi-même. Et c'est un moyen très fort pour essayer de se surpasser avec soi-même. Voilà, donc. Et puis, évidemment, il y a aussi une manière de réfléchir sur les choses. C'est une chance, qui disait ça, je crois, que Tout le monde n'a pas le bonheur d'être orphelin. C'était un peu mon cas. Et disons, je trouve que ça a été une chance pour me rendre très créatif, de ne pas m'attacher à ce que je crée en plus. Donc j'ai personne pour le recueillir dans l'enfance. L'enfance est faite pour ça. On est tellement formé par l'enfance. Par exemple, je ne pleure pas pour obtenir quelque chose, jamais. L'enfant, c'est un moyen pour lui de chantage, le pleur. Après, on pleure au devant de Dieu. Quand les gens meurent, bon, tout ça, c'est du chantage. Donc je suis sec. Mes larmes, mon lac de larmes est tari. Voilà.
Mais l'enfance, elle a été courte. De toute façon, Serge Résvanier, à 15 ans, vous venez à Paris. Paris, à l'époque, sous l'occupation allemande.
Dans ce quartier. Dans le quartier, je veux dire, Montparnasse.
Mais vous venez ici, ai-je lu, pour devenir peintre, pour peindre, plus exactement. Mais d'où vient ce goût, en fait, de la peinture?
Ah, il faut revenir à la mère, encore une fois. Que fait l'enfant? D'abord, c'est pas moi, c'est Freud. Il offre ses excréments. Et puis après, il salit une feuille. Et sa mère dit, oh, que c'est beau, c'est merveilleux. Et puis ça y est. Le besoin d'être apprécié. Ma mère, je ne l'ai pas eu longtemps, mais ça a beaucoup marqué quand même. Et je pense que le peintre est un être qui reste toute sa vie dans l'enfance, finalement. Ce qui est le cas des hommes politiques aussi, je pense qu'ils reviennent au berceau. Ils ont été tellement appréciés au berceau que l'Élysée, c'est un grand berceau. Et toute leur vie, ils grimpent vers le berceau idéal.
Voilà une lecture intéressante, en effet. Mais pour revenir à vous...
Oui, c'est une digression, ça.
Non, mais je la trouve très bienvenue. Mais pour revenir à vous, Serge Résvani, l'initiation au dessin, à la peinture, à la Grande Chaumière, à Montparnasse.
Ah oui,
c'est quand même un lieu
extraordinaire.
Pour nous, mythique, quand même.
Oui, c'était, mais ça l'était même...
Au présent.
Même pendant la guerre, ça l'était. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'étrangers. Non, il y avait des étrangers, il y avait des Allemands. Mais l'idée qu'il y avait des Américains, qu'il y avait des Anglais, qu'il y avait des étrangers à Montparnasse, il y avait des vieux peintres qui étaient encore là, ceux qui n'avaient pas été déportés, qui nous racontaient un Montparnasse qui était vraiment mythique. Et puis il y a eu la Libération, et sur les mêmes tabourets où il y avait des Allemands qui dessinaient, parce qu'il y avait beaucoup d'artistes parmi ces pauvres types qui ont été embarqués dans la guerre, et sur les mêmes tabourets, après les Allemands, il y avait tout d'un coup des Anglais, des Américains. Il y a eu un basculement extraordinaire. Voilà, Montparnasse. Non, Montparnasse est toujours resté proche du mythe, c'est vrai. Et puis, oh, je croisais dans la rue, que ce soit Antonin Artaud, que ce soit Adamoff, dans la misère, tous. Donc, toutes ces icônes d'aujourd'hui étaient à l'époque vraiment des clochards. Et ils avaient faim, surtout. Et froid, froid, froid. C'est pire que la faim.
La faim, le froid, vous avez connu aussi, Serge Résvani, mais il y avait ce besoin de peindre.
Ah oui.
Alors, évidemment, pas beaucoup de moyens ou peu de moyens pour le faire. Ce fait que vous, j'ai lu que vous repeigniez la même toile et qu'il fallait enlever des couches parfois pour pouvoir recommencer.
Mais ça, c'est pas la misère, c'est tout simplement que j'ai toujours considéré la peinture comme un moyen d'extraction de ce que je ne sais pas. Je ne faisais pas des objets à vendre, je ne l'ai jamais fait. C'est à un moment où j'ai été embarqué dans le marché de la peinture que j'ai quitté dès que j'ai pu, grâce aux chansons.
Ouais, ça, on y vient. Pour autant, donc, c'est vrai que c'était pas la grande fortune, mais qu'il y a un homme qui va jouer un rôle important. C'est Paul Éluard, et je voudrais vous faire écouter sa voix.
Une tête, des bras, des mains pour travailler, c'est bien. Au moins, tant que nous avons des forces. Des yeux pour voir, c'est bien. Pour en profiter, c'est mieux. Une bouche pour manger, oui, mais à la condition de ne pas avoir désespérément faim. Et tout le reste pour ce que vous savez, mais à la condition d'en avoir conscience et de pouvoir corriger le poids de la vie par un sourire impondérable, par une parole confiante.
Oui, c'est le Paul Éluard que je n'ai pas connu. Il est emphatique. C'était un homme, au contraire, extrêmement simple. À moi, il aurait dit tout ça autrement.
Oui, mais là, c'est la radio. Il est dans la radio,
la représentation, absolument.
Ouais. Mais sur le fond, c'est cet homme-là qui regarde la vie, qui regarde le sourire.
Il était très fin, très adorable pour moi. Parce que là, j'étais dans la misère, une sorte de misère qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et donc, j'avais fait ces planches gravées, vraiment par pauvreté. Je ne pouvais pas acheter de peinture ni rien. J'étais à Nice. Donc, je prenais des planchettes et j'ai gravé des profils de femmes gravés dans ces planchettes. Et quand Éluard les a vues, quelqu'un lui a montré. Il a dit, c'est exactement un poème, un magnifique poème d'ailleurs, qu'il avait écrit avant et qui en plus pour moi, projetait ma vie avec Lula.
Elle se dit élever un palais.
Ouais, c'est magnifique. Et ça a été vraiment ma vie avec Lula, ce poème, c'est étrange. Et donc j'ai fait ce livre, mais je tirais ça avec l'angle de Chine et la paume de mes mains. C'est à peine si j'ai réussi à tirer 16 exemplaires, c'est déjà beaucoup, mais c'est le livre le plus rare de la bibliophilie française, je crois. Et donc, et l'art était merveilleux, même. Un jour, il m'a dit, j'ai écrit un vers devant lequel tout le monde s'étonne, la terre est bleue comme une orange. Moi, je ne connaissais pas son œuvre. Et vous savez pourquoi? J'avais tellement faim qu'il me donnait un peu de fromage. Il mettait sur un bout de table un petit peu pour me nourrir en même temps quand j'ai apporté les gravures, à mesure les gravures. Et il m'a dit, oui, j'étais parti en vacances, j'avais oublié des oranges dans un compotier. Quand je suis rentré, elles étaient bleues de pourriture. C'est magnifique. Quand on va à l'origine et qu'il ait transformé ça en un verre qui est devenu vraiment... Bon, même on le cite pour les astronautes aujourd'hui, quoi. Cette terre bleue.
Mais par Paul Éluard, effectivement, c'est la rencontre et l'ouverture vers le monde de l'art. Au départ, très bien, hein, la galerie Macht, évidemment, qui vous expose en 1950. Il y aura ensuite la galerie Kléber, et puis des expositions un peu partout dans le monde. Serge Rezvani.
Et peu.
Mais, comme vous l'évoquiez, ce monde-là, ça vous intéresse moins. Vous décidez d'arrêter la peinture parce que vous, quoi, vous voulez pas faire carrière dans ce monde-là?
Non, c'est plus simple. Moi, je ne faisais rien. Disons, je ne faisais pas le travail de promotion que les peintres doivent faire. Un peintre est un marchand. Vous pouvez frapper à sa porte la nuit en lui disant « Je viens vous acheter un tableau ». Il se lève et il est très heureux de vendre ses tableaux. Moi, c'est une chose qui m'était très pénible. Et donc, si Truffaut n'avait pas aimé tellement mes chansons, il sentait très bien dans quelle situation j'étais par rapport à la peinture, je vendais très bien puisque je bénéficiais du travail que faisaient mes contemporains, oui, ma génération. Donc je vendais bien, j'exposais dans les meilleures galeries, c'est vrai, au Musée d'Art Moderne, même Beaubourg, mais ça ne me convenait pas. Et Truffaut le sentait très bien et c'était quelqu'un de très merveilleux. Il a été merveilleux. Et donc il a souhaité que le tourbillon soit un tube. Et ça s'est avéré.
Mais avant d'en venir à vos chansons, il faut bien sûr parler de Lula, que vous rencontrez en 1950. Vous avez 22 ans, elle en a 19. Vous avez résumé cette rencontre en quelques mots, donc je me permets de vous citer, Serge Rezvani. Quand elle arriva dans ma vie, ce fut immédiat et pour toujours. On ne peut pas mieux résumer.
Je le dis a posteriori.
Mais vous résumez bien cette rencontre, même si c'est a posteriori.
Oui, ben, j'ai écrit une chanson. On va revenir aux chansons quand même. J'ai écrit une chanson, « Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours, ô mon amour ». C'est ma chanson philosophique sur l'amour.
Qu'on retrouvera dans Pierrot le fou.
Oui, un peu abîmée par Godard quand même, je trouve. au contraire de la ligne de chance, qui a été sublimée. Mais Godard, quand il a pris cette chanson, on l'a répétée en studio, je me souviens, il avait pris un balai, il s'était mis à balayer par terre, elle a dit « Bon, c'est comme une femme de ménage en chantant cette chanson ». Ça, c'est le côté destructeur de Godard. Mais vraiment, Bon, bref.
Mais si je parlais de Lula pour parler de vos chansons, c'est qu'il y a un lien entre le début de l'écriture des chansons.
Absolument.
Et cette rencontre. Ça commence comment, l'écriture de chansons?
Mais, comment? Ça n'a jamais commencé. Ma mère était musicienne et je suis musicien comme un oiseau de naissance. Sans avoir jamais choisi la musique, j'adorais chanter dans les chœurs russes, les chœurs d'église. J'aime beaucoup la... Bon, bref. Les mots ne me viennent pas toujours. Peu importe. Et donc, la liturgie. Voilà, la liturgie russe, je la trouve extraordinaire. C'est du théâtre, bien sûr. Et donc, j'ai toujours chanté. J'adore comme chantent les Russes, les Italiens, les gens qui se réunissent, qui se mettent à chanter comme ça. Et donc, ça m'est venu tout naturellement. Et puis, toute ma vie, tout ce que j'ai créé, c'était pour séduire Lula. Et donc ces chansons font partie de ma séduction. Voilà. Et elle était très séduite par mes chansons.
On comprend. Mais donc elles avaient d'abord pour premier auditoire destinatrice Lula. Puis après, c'est quand même dans un cercle d'amis.
Oui, ça s'est élargi. Il y avait Francesca Solville qui était une amie. Ward Swingle aussi qui était un merveilleux musicien. Peu à peu, ça s'est élargi, en effet. Puis Jeanne Moreau, bien sûr, qui les connaissait toutes, puisqu'elle est venue s'installer pas loin chez moi à la Gare de Fresnay aussi. Et puis surtout le mari de Jeanne Moreau, Jean-Louis Richard, qui était le scénariste de Truffaut aussi après. Et donc, quand il m'a entendu chanter, par hasard, j'ai chanté une chanson, je ne sais, peut-être le tourbillon, peu importe. Il m'a dit, oh, c'est formidable, c'est toi qui compose ça. Mais je lui ai dit, mais tu sais, tu peux la chanter, il n'y a que deux accords. Et j'ai montré sur la guitare qu'il n'y a que deux accords. Et en cinq minutes, il avait appris le tourbillon. Il l'a chanté à Truffaut. Truffaut s'est enthousiasmé pour mes chansons, vraiment d'une manière presque enfantine, je dirais. Il aimait beaucoup mes chansons. Et voilà comment est venu Julie Jim.
Alors, pour évoquer cette époque, on va écouter un premier extrait de votre nouveau disque. Un duo avec Léopoldine HH. C'était du temps de Canetti. Alors, quand même, quelques mots sur Léopoldine d'abord.
Ah ben, Léopoldine, c'est un ange qui est entré dans ma vie, si on peut dire, grâce à Françoise. Je ne la connaissais pas. Physiquement, je ne peux pas vous la montrer à la radio. Elle est ravissante, elle est surtout très, très pure. Je ne sais pas comment, j'aime pas beaucoup ce mot, mais il y a quelque chose chez elle d'un peu aérien, je ne sais pas comment dire. Et voilà, je ne la connaissais pas et j'étais. Et je trouve très beau comme elle chante, c'est très, encore une fois, très pur, très simple surtout, c'est important, et très sensible. Qu'en dire, je ne la connais pas plus qu'à travers son travail.
Alors par contre, un que vous avez bien connu, c'est Jacques Canetti, donc sujet, si je puis dire, de cette chanson. C'est quoi cette rencontre avec lui pour vous? Quelle place il occupe dans votre parcours?
Mais Canetti, je ne l'ai pas beaucoup vu, vous savez, parce que je vivais beaucoup dans le Midi. Je n'ai assisté peut-être qu'à une séance d'enregistrement. Et donc, c'était un homme... c'est drôle, j'étais à une séance d'enregistrement au Théâtre des Champs-Élysées, justement. Il est arrivé avec un jeune garçon. Non, c'est pour vous dire comment je le vois, moi. Et il a dit à Jeanne Moreau, tu vois ce garçon? On en entendra parler. C'était Guy Bedos. En fait, c'est un découvreur. Il avait senti chez Bedos quelque chose que personne ne pouvait voir, parce qu'il était assez timide, il s'est mis dans un coin. Sur Canetti, c'est lui qui a quand même persuadé Jeanne Moreau qu'elle pouvait chanter, et pouvait chanter des chansons de quelqu'un qui n'était pas du métier du tout, quoi. J'étais peintre. Hein. Voilà.
On vous écoute, Serge Rezvani, avec Léopoldine HH.
C'était du temps de Canetti, quand Paris chantait par lui. Que sommes-nous devenus depuis? Adieu, mes amis.
Il y avait Boris Vian, il y avait Mouloudji, il y avait Yves Montand et Gainsbourg aussi.
Boris jouait de la trombinette, Mouloudji coquelicait, pendant que Serge de son côté déraillait la Marseillaise. C'était du temps de Canetti, quand Paris chantait par lui. Que sommes-nous devenus depuis? Adieu mes amis.
Il y avait Brassens et Béart qui pompaient de la guitare. Il y avait l'aigle noir de la reine du soir.
Il y avait Aznavour qui piaf fait au carrefour, qui se voyait déjà devant Dalida.
C'était du temps de Canetti, quand Paris chantait par lui. Que sommes-nous devenus depuis? Adieu, mes amis,
adieu.
On On va rester dans la musique, Serge Rezvani, on va en venir à la version, chacun a sa version, mais la version de Jeanne Moreau sur cette histoire autour du tourbillon de la vie, on va l'écouter, c'était sur France Culture en 2003.
Cette chanson, elle a été écrite, pas écrite, elle a été chantée, composée en même temps, par Serge Rezvani, qui est écrivain maintenant et qui était peintre. Et lorsque le père de mon fils et moi, nous nous sommes séparés, ça a été un moment difficile. Et Serge a pensé, on s'est aimé, et il a fait le tourbillon de la vie. Et on s'est reconnus, on s'est perdu de vue. On s'est reperdu de vue. On a continué à tourner, tous les deux enlacés. C'était la pérennité de l'amour. Et quand je faisais des voyages en voiture avec François Truffaut, on chantait tout le temps. Et cette chanson revenait. Et lorsque nous tournions dans le Jura, Jules et Jim, tout d'un coup il m'a dit, mais Jeanne, moi j'aimerais bien qu'il y ait, ça vous ennuie qu'il y ait le tourbillon de la vie. J'ai dit non. Si Jean est d'accord, moi je veux bien, si Serge aussi. Serge tournait. Et on n'avait pas d'ingénieur du son parce qu'on n'avait pas les moyens. C'était un tout petit budget. Alors on a fait venir un ingénieur du son une journée. Et cette chanson, qui était faite pour un couple qui s'était séparé, mais qui s'était retrouvé après dans quelque chose qui n'a pas de nom, qui n'est pas l'amitié, qui n'est plus l'amour, mais qui est une sorte d'attachement indestructible, allait très bien.
Ce tourbillon de la vie, Serge Rezvani, vous l'aviez donc écrit bien longtemps avant Jules et Jim ?
Oui, bien sûr, très longtemps avant. Et je l'ai écrit très rapidement, parce qu'en fait, on avait des soirées, une fois par semaine, on se retrouvait chez Jeanne Moreau, dans un petit appartement qu'elle avait à l'époque, et où chaque fois j'apportais mes dernières chansons, il y avait Truffaut, il y avait Boris Vian qui venait du Moulin, puisqu'il habitait pas loin au Moulin Rouge, c'est sur cette extraordinaire terrasse où il avait une maison à côté de Prévert. Et puis, je ne dis même pas qui n'est pas venu, vraiment, il y avait Marguerite Duras, il y avait... Bon, et donc c'était des soirées charmantes, parce qu'on était comme des gamins, on chantait mes chansons, il y avait Francesca Solville qui les déchiffrait, et puis on jouait aux cartes, et on faisait un grand spaghetti, et ceux qui perdaient aux cartes, on se retrouvait à la cuisine et on faisait la vaisselle, que ce soit Truffaut, que ce soit Vian, que ce soit moi. Donc c'était très, très enfantin, et les chansons ont commencé à vivre là, vraiment, et chaque semaine j'apportais de nouvelles chansons, et bon, voilà. Il y avait Ward Swingle qui d'ailleurs m'avait dit « Mais tes chansons sont pas carrées. » Il a noté la musique, il m'a dit « Tu devrais dire « Dans le tourbillon de la vie ». Voilà, une chanson carrée.
Ça veut dire que chaque chanson, elle renvoie à un moment, à une personne, à un sentiment ?
Écoutez, je sais pas comment je les ai composées. On me demande souvent, est-ce que c'est la musique avant, est-ce que c'est les paroles? Je ne sais vraiment pas. Parfois, c'est peut-être un mot qui... Mais chaque mot a une musique, déjà. Donc, si la musique du mot est juste avec le mot, la chanson vient derrière, fatalement. Chez moi, je n'écris pas la musique, donc c'est d'oreille. Voilà. Donc, c'est vraiment... Je n'ai aucune prétention pour ces chansons. Ce sont des chansons... Dernièrement, il y a quelque temps, pardon... Et un jour, je dîne chez un ami dont la femme est russe, c'est une comédienne russe. Et puis, à la fin du dîner, il y a une petite fille de 5 ans en tutu qui arrive et qui me chante le tourbillon et j'ai la mémoire qui flanche avec l'accent russe. C'était extraordinaire, quoi. Donc voilà, ça passe les générations, c'est beau. Une chanson, c'est comme un parfum. Voilà. Et puis, ça vous ramène à un moment.
À un moment de connivence aussi.
Absolument, bien sûr. Parce que le cas du tourbillon, chaque fois que le tourbillon est chanté quelque part, tout le monde la connaît. Et c'est très émouvant de voir que tout le monde se retrouve sur cette chanson, on ne sait pas pourquoi. C'est un miracle, parce qu'elle est vieille, cette chanson.
Alors, pour revenir au tourbillon, et pour rester sur lui, vous vous méfiez quand même du potentiel succès de vos chansons, donc vous apparaissez sous un pseudonyme. Sirius Bassiac, d'abord pour interpréter cette chanson avec Jeanne Moreau sur grand écran, mais alors vous aviez raison de vous méfier, puisque donc Jacques Canetti fait enregistrer ce premier album, 12 chansons de Bassiac, chantées par Jeanne Moreau, Grand Prix de l'Académie Charles Cros en 64, il y aura en 66 un deuxième disque, logiquement intitulé 12 nouvelles chansons de Bassiac. Entre-temps, on l'a évoqué, c'est Jean-Luc Godard qui vous demande plusieurs chansons pour Pierrot le Fou. Il y en aura donc deux dans le film, chantées par Anna Karina. Alors, vous dites que voilà, elles arrivent comme ça. Vous avez souvent dit que c'était votre journal chanté. C'est vrai. Qui avait vocation à rester dans la sphère intime, amicale, et tout d'un coup...
Sans Canetti et Jeanne Moreau et Truffaut, ces chansons se restaient dans mon tiroir, et entre Lula et moi et quelques amis.
Oui, c'est mais vrai. Du coup, ça devient une œuvre publique. Comment est-ce que vous le vivez, ça, vous?
Non, ça devient... Je ne pense pas au public du tout. Mais ce n'est plus une œuvre de moi. Voilà, c'est parti. En tant que peintre, c'est pareil. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de créer, même les chansons. J'adore écrire une chanson, quand ça vient, c'est merveilleux, mais après, ça m'est égal ce qu'elle devient. Je ne suis pas paternel. Heureusement que je n'ai pas fait d'enfants, parce que je les aurais jetés comme mes chansons.
Bon, alors, pour revenir aux chansons encore une fois, dans ce nouveau disque, je l'ai dit, il y a deux versions inédites chantées par Jeanne Moreau, l'une de Paris, tu me rends dingue, et puis l'autre, du Tourbillon. On va écouter cette dernière dans un instant, mais comment se fait-il que cette version soit restée inédite jusqu'à aujourd'hui?
Je pense qu'il y a eu trop de chansons enregistrées. C'est tout simplement, on les a mises de côté parce qu'il y a eu un autre disque où il y a le chanteur Orly aussi qu'on avait mis de côté, puis je ne sais plus quelle chanson. Mais cette chanson a sa petite histoire parce que quand j'ai écrit Paris, tu m'en dingue, c'est une époque où tout le monde adorait Paris et tout le monde me disait « qu'est-ce que tu as contre Paris ?» Moi, je trouvais déjà que ça manquait d'air, je trouvais déjà qu'il y avait trop de voitures, et je suis parti. Je ne suis pas parti contre Paris, je suis parti pour autre chose. Et donc, j'ai été très heureux 50 ans, et j'ai bien fait d'être parti. Mais j'ai toujours aimé Paris, mais je trouvais que Paris devenait invivable. Et j'ai écrit cette chanson, et Boris Vian m'a dit « mais on ne peut pas écrire une valse contre Paris, ce n'est pas possible ». Il était outré que j'ai... Et puis un jour, Jacques Lanzmann, qui était mon frère, puisque j'avais épousé sa sœur, ma première femme, il était venu chez moi, dans le midi, et puis je lui ai chanté par hasard cette chanson. Il m'a dit « Oh, c'est formidable! Mais écoute, je vais écrire des paroles et tu vas faire la musique. » Je lui ai dit « Non, 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 je ne suis pas un professionnel. » Et il a écrit « Paris, Paris s'éveille », cette belle chanson. Je pense en réponse à Paris, tu m'en... qui est contre une chanson contre Paris. Peut-être que c'est la seule, il n'y en a pas beaucoup en tout cas.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais.
Alors finalement, comme avec la peinture, Serge Resvani, le succès de grandissant de vos chansons semble quand même vous contrarier. On vous appelle à Hollywood pour faire des musiques de films.
Ah non, ça ne me contrarie pas.
Non, mais...
Non, non.
Mais vous arrêtez.
Non. Écoutez, mes chansons sont venues vraiment dans... Sans préméditation, je le répète, comme un chant d'oiseau. Vraiment, vraiment. C'est aussi simple que ça. Et puis, le succès, en effet, des chansons... Est-ce que ça m'a peut-être inhibé? Peut-être ai-je voulu être à la hauteur et je me suis dit que je ne pourrais plus écrire des chansons innocemment maintenant. Donc j'ai arrêté un moment, puis ma femme est tombée malade, elle a la maladie d'Alzheimer. Et ça a été vraiment une période très très difficile et j'ai eu envie de recomposer des chansons pour m'évader. La musique est très importante dans ma vie. Et je me suis dit, est-ce que je serais capable d'être innocent encore une fois? Et finalement, j'ai retrouvé, par chance, cette innocence. Et je pense que j'ai écrit même des chansons qui allaient plus loin, si on peut dire, que les premières.
Parce que de fait, il a fallu attendre 1994, l'album Notre Folle Jeunesse, pour vous entendre, pour la première fois d'ailleurs sur disque, interpréter vous-même 17 de vos chansons. Et puis arrive quand même Mona Heftre, une ancienne du Grand Magic Circus de Savary, qui commence à interpréter vos chansons. Un spectacle au Sentier des Halles, ça s'appelle Tantôt Rouge, Tantôt Bleu. Qu'est-ce qui se passe quand vous découvrez ce spectacle, quand vous en êtes, vous, le spectateur, Serge Resvani?
Elle m'avait envoyé c'était des cassettes à l'époque, vous savez. J'en recevais beaucoup, mais c'est la seule que j'ai trouvée intéressante et je lui ai répondu. En effet, elle devait faire un récital. Je lui ai dit, je ne viendrai pas. Puis finalement, je suis venu avec Lula, qui était malade déjà. Et on s'est retrouvés par hasard, presque au premier rang, à un mètre d'elle. Et elle ne savait pas qu'on serait là. Lula, qui était extrêmement émotive au début de maladie surtout, a pleuré pendant tout le temps. Elle a chanté des chansons d'amour, c'était vraiment bouleversant. Et Mona était là, devant nous, sans qu'on se soit parlé. Elle ne savait pas qu'on devait venir. Et donc, après, bon, on s'est vu. Et il y a une grande amitié pour elle, vraiment. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est remarquable, que Lula a aimé, bien qu'elle était déjà un peu dans la vape. Et Mona, si vous lui parlez de Lula, elle a des larmes. Parce que vraiment, il y avait quelque chose chez Lula de très fort, de très beau. Et donc, j'ai écrit une ou deux chansons. Ben, une des chansons qui est chantée, Est-ce lui, c'est pour elle que je l'ai écrite. Chose que je ne fais jamais. Mais je pensais à elle, en tout cas, quand je l'écrivais.
Elle a fait ce disque, Tantôt Rouge, Tantôt Bleu. Encore une fois, très grand prix disque de l'Académie Charles Cros.
Gros disque, j'aime beaucoup.
Et puis ensuite, à l'initiative de Bertrand Py, vous avez enregistré une intégrale de vos chansons, 6 CD chez Actes Sud, accompagnée par Amaury Canovas-Fillard à la guitare, avec vos peintures. Auteur, peintre, musicien, ça y est, enfin, après tout ce temps-là, vos différents arcs se retrouvent.
Absolument, vous m'avez bien lu. Absolument. Oui, absolument.
Cette intégrale, c'est quand même un moment particulier.
Ah oui, c'était... Non, je voulais archiver. Voilà.
Bon, il faut dire, Serge Resvani, que vos chansons... alors, tout nourrit tout, mais votre œuvre d'écrivain, alors que ce soit pour le théâtre, parce que votre première pièce, Les Immobiles, écrite en 65, tire son origine de la chanson J'ai la mémoire qui flanche, mais plus largement, les thèmes qu'on retrouve dans vos romans, ils sont déjà dans vos chansons.
Tout ça est très mêlé, tout ça avance ensemble, et en même temps, je ne dis pas que c'est pérenne. Du tout, je n'ai pas du tout l'idée de l'œuvre. C'est sortir des choses du néant que je ne sais pas. Et sur le monde, et sur moi-même, je pense que la création, c'est surtout ça. Ce n'est pas ajouter quelque chose au monde, c'est interroger quelque chose qui n'a pas de réponse. Nous sommes sur Terre, nous nous interrogeons, et on sait qu'il n'y aura jamais de réponse.
Et quand vous dites « sur vous et sur le monde », Serge Resvani, ça renvoie aussi à... Quand on repense à votre œuvre écrite, il y a des romans qui sont autobiographiques, il y a la poésie, bien sûr, mais il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du conte philosophique, oui. Le cycle des désastres, qui s'interroge vraiment sur la dimension politique au sens le plus noble de la société.
C'était ça peut-être le plus important. C'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment. J'écris des méditations. Ça va bien avec mon âge.
Il était temps, la sagesse arrive.
Oui, c'est ça, exactement. Mais ce sera illisible.
C'est-à-dire ?
Je vais au fond des choses. Si on dit vraiment les choses... En fait, il y a une pellicule, même l'histoire, je dis là. En fait, on nous drogue avec une fausse histoire. Mais si vous arrachez cette pellicule tout doucement et que vous allez au fond, les gens ne peuvent plus vous écouter. Et souvent, il y a des choses que je dis, je vois bien que les gens... Ils n'ont pas envie d'entendre.
Oui, comme on n'avait pas envie, vous l'évoquiez tout à l'heure, d'entendre Antonin Artaud.
Ah, bien sûr, j'ai une grande admiration pour lui. Et ma peinture résonnait très fort, bizarrement, avec la littérature d'Artaud. C'est très curieux, à quel point même. Ça m'a conduit au désastre.
Logiquement.
Non, bien sûr, parce que vous peignez un tableau, disons, assez viscéral, comme la littérature d'Artaud, quoi, qui va vraiment sous la peau. Bon, le tableau est impossible à vivre. Par contre, l'écriture, c'est autre chose. On s'adresse, c'est les deux derniers solitaires. Celui qui écrit, celui qui lit, ce sont les derniers solitaires du silence de ce monde, de bruit. D'ailleurs, je pense que les gens en lisent de moins en moins. Parce que j'ai fait un livre de dessins C'est un livre blanc qui est paru chez Gallimard, qu'une amie à moi qui est libraire, qui est Marie-Rose Guarnieri, a publié. C'est un livre avec les titres tous les titres de la littérature, avec la biographie et la page blanche, 365 pages blanches, qu'on a distribuées chez tous les libraires, et que moi j'ai rempli deux fois. J'ai fait 1000 dessins. Tout le jeu entre la littérature et le dessin. Mais je m'aperçois que ce livre, les psychanalystes l'adorent, les écrivains l'aiment, mais je pense qu'il y a peu de gens qui comprennent ce jeu, parce qu'il y a très peu de gens qui lisent, finalement, je m'aperçois.
Bon, il faudra qu'on se revoie pour parler de vos méditations, Serge Reggiani, mais pour conclure, la sortie de ce disque, ce nouveau disque, ça représente quoi pour vous? Que des plus jeunes générations s'emparent à leur tour de vos chansons?
Ça redonne une jeunesse extraordinaire à mes chansons, surtout parce que je m'aperçois qu'elles vont très bien dans la bouche de jeunes gens. Et c'était pas sûr. Parce que, ma chanson, par exemple, Vous qui venez de naître, que j'aime beaucoup, que je viens d'écrire d'ailleurs il n'y a pas longtemps, c'est pas un message. Mais elle est très jeune en même temps, cette chanson. Et elle est rajeunie merveilleusement par Dominica, en plus. J'adore comme il chante comme j'aimerais bien chanter.
Il y a ce nouveau disque, album en CD ou en vinyle, Chanson pour Lula, sorti par les productions Jacques Canetti. Beaucoup d'autres actualités, Serge Reggiani, à venir en cette année 2023. Ça, on s'en réjouit. Merci beaucoup, Serge Reggiani, d'avoir été ce soir l'invité de cette émission.
Je vous remercie.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Bonsoir ma chère Lucine Comeau.
Bonsoir.
C'est tout. C'est très très Lana Del Rey. Hein. Puisque ce soir, en effet, vous avez parlé du dernier album de Lana Del Rey intitulé Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard?
There's a certain point the body can't come back from. In one year we've turn of the mouth, the depth that the chest cavity takes. Chucky was there for 3 out of 3. I was there for the third, 'cause I couldn't be there for the one who was closest to me. But I can't say I run when things get hard. It's just that I don't trust myself with my heart. But I've had to let it break a little more, 'cause they say that's what it's for. That's how the light shines in. That's how the light shines in. That's how the light gets in.
Kintsugi, elle s'appelle cette sublime chanson du nom d'une technique japonaise qui consiste à réparer quelque chose qu'on a cassé, souvent une poterie ou une porcelaine, avec de la colle dorée. C'est ainsi que la lumière entre, chante Lana Del Rey dans ce morceau qui fonctionne comme une métaphore parfaite de son 9e disque. Une douzaine de morceaux comme ceux éparpillés d'un objet brisé, cœur, corps, raison, dont les fêlures brillent doucement, une dislocation qui pénètre même certaines chansons. AW, titre scindé collant ballade et trap, ou encore ces morceaux étranges comme celui-là, sans vraiment de refrain ni de couplet, mais une sorte de flux de conscience poétique déposée sur des airs de piano qui désarticule la ballade folk. Dans cet album, Lana Del Rey déploie moins son Amérique habituelle qu'elle ne l'absorbe. Les hôtels californiens, les palmiers en noir et blanc, les bayous, les road trips sont intimes dans une Americana retournée comme une peau de lapin. Ce n'est pas Ocean Boulevard qu'on explore, mais le tunnel en dessous, comme le dit ce titre à rallonge. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Une image qui articule quelque chose de poétique et de sexuel. Open me up, demande-t-elle, ouvrez-moi. Plus loin, skinny deep in my mind, plongée nue dans mon esprit. En fait, elle incite à aller dans le creux des choses et regarder ce qu'il y a à l'intérieur, sa famille au complet, fantômes et vivants, son désir d'être aimé, celui d'avoir un enfant, la peur de la mort, autant de choses intimes qui sont dans le fond toutes un peu les mêmes. Le mouvement vers l'intérieur est aussi celui d'une recherche spirituelle. Au cœur du disque, Lana Del Rey fait résonner la parole enregistrée de son pasteur. Les harmonies se font gospel, comme dans cette a cappella qui ouvre le disque, et les textes en appellent à une foi matinée de développement personnel. Un refrain semble obséder deux morceaux au moins. When you know, quand on sait, on sait. Lana Del Rey, mi-prêcheur, mi-pécheresse, est de plus en plus ophélienne avec ses éternelles robes blanches et sa mélancolie, dans des textes qui parfois semblent dangereusement se diluer dans une rivière suicidaire. Il y a quelque chose d'assez terrifiant à l'écoute, un morceau comme Fingertips par exemple, totalement désarticulé, où elle semble dire tout ce qui lui passe par la tête dans un aigu un peu alarmant. Alors est-ce que c'est parce que je suis en train de lire le dernier roman de Brad Easton Ellis? Mais ce disque à la beauté morbide m'effraie. J'entends des fantômes, des fous, des tueurs errants sur Mulholland Drive. Il faut sans doute être mieux accroché que moi pour être certain que la fêlure de Lana Del Rey est une construction, ne pas avoir peur et voir la lumière au bout du tunnel.
Sinon, vous écoutez la Compagnie Créole. Ça peut être aussi une solution. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? C'est le dernier album de Lana Del Rey paru chez Polydor. Mais bon, tenez le coup, hein, Lucille Gomeau. Va-t-on changer de registre avec vous, Marie Sorbier? Bonsoir.
Bonsoir, j'ai bien l'impression que oui.
Parce que dans l'affaire en cours ce soir, une colère qui gronde chez les historiens à cause de Danton et Robespierre.
Oui, et plus précisément à cause d'une lettre écrite par Robespierre pour Danton en 1793 qui vient d'être adjugée aux enchères à Versailles pour 218 750 euros. Cette lettre est la seule connue, signée de Robespierre adressée à Danton et témoigne de l'amitié qui liait alors les deux hommes. Ce document témoin de l'histoire de la naissance de la République devait-il alors partir entre les mains d'un collectionneur privé? Une tribune publiée dans Le Monde, signée par une trentaine d'historiens et d'intellectuels, regrette que l'État n'ait pas exercé son droit de préemption. Je suis allée demander à Loris Chavanette de nous en dire plus sur l'importance historique de cette lettre. Loris Chavanette, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, vous avez co-signé cette tribune. Peut-être pour commencer, quel est le contenu de la lettre et en quoi est-ce un document majeur?
Alors c'est d'abord un document majeur parce que Danton et Robespierre ne sont pas des personnes anonymes dans la Révolution française. Ce sont les deux premiers députés de Paris en 1792, donc en République. Ils sont amis et ils vont se livrer ensuite un duel absolument fameux que j'ai essayé de retracer dans une biographie croisée. Alors cette lettre, c'est l'unique dont nous disposions entre Robespierre et Danton, et d'ailleurs elle est adressée par Robespierre à Danton pour lui passer ses condoléances. Donc c'est un morceau très tendre, très émouvant, très, très romantique presque, d'une relation amicale, franche, sincère, patriotique entre ces deux frères de la Révolution, frères d'armes, et Robespierre essaie de dire aussi frères d'âme, puisque tous deux ont souffert. Robespierre a perdu sa mère et son père l'a abandonné quand il avait 6 ans, et Danton, lui, perd coup sur coup son épouse Gabrielle, son adorée Gabrielle, qui meurt en mettant au monde un enfant mort-né. Bref, cette histoire, ce morceau de terreur est déjà un bout de tragédie de notre histoire, histoire personnelle aux deux, histoire collective, puisque c'est la nôtre.
Alors dans la tribune que vous co-signez, vous vous étonnez que l'État ne prenne pas position. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de l'État dans ces cas-là? Et quel serait le rôle, selon vous, aussi d'autres institutions comme les Archives nationales ou la BNF par exemple?
Il est vrai que la maison de vente, la maison au Sénat, qui a bien fait son travail, hein, puisque la lettre a été vendue à plus de 200 000 euros, enfin c'est assez exceptionnel pour le souligner, la maison au Sénat avait informé, avait respecté son obligation d'information de l'État, obligation d'information des institutions, BNF, archives, etc., via diverses publications. Et lorsque j'ai découvert, via un ami qui m'a contacté en m'envoyant une photo de la lettre, en lisant la Gazette de Rouault, j'ai été choqué d'apprendre cela par la voix d'un ami, etc., sans que ce soit un débat public, un débat national, pour engager les historiens, les professeurs d'université, voire des politiques, et je crois que c'était légitime. L'émotion a été immédiate, dès que j'ai appelé à ce que l'État se saisisse de ce dossier. Malheureusement, l'État n'a pas préempté. Et donc, nous avons décidé, dans les jours qui ont suivi, ça a été une longue négociation, une belle aventure, de co-signer avec Stéphane Bern, avec Éric Orsenna, avec même Jean-Luc Mélenchon ou d'autres députés comme David Lisnard, qui est le président de l'Association des maires de France et maires de Cannes. Donc, bref, de divers horizons pour signifier à l'État notre émotion, notre émoi devant cette dispersion d'un trésor national en réalité.
Et comment vous expliquez que l'État ne se soit pas positionné ?
En réalité, l'État ne s'est pas positionné parce que, sans doute, les universitaires qui ont été au courant de la vente ne se sont pas manifestés. Je pense notamment à la Société des études robespierristes qui avait acquise en 2015, enfin, qui avait fait acquérir par l'État en 2015 des papiers de Robespierre, qui valaient certes une fortune. Et cette fois-ci, ils n'ont pas voulu à nouveau rééditer cet exploit de faire acquérir par l'État. C'est sûr, c'est un long processus. Et les universitaires, sans doute, trouvaient que cette lettre était peut-être à charge contre Robespierre, qui dit « Je t'aime à Danton, aujourd'hui je suis toi-même », alors que quelques semaines, quelques mois après seulement, il va l'envoyer à l'échafaud de manière radicale, comme un fratricide.
Justement, c'est un jalon intéressant dans l'histoire des deux hommes.
Oui, bah alors c'est sûr, d'un autre côté, cette lettre peut être analysée à décharge pour Robespierre, parce qu'il s'y montre très, très sensible, et pas du tout le tyran, le tigre, abreuvé de sang, qu'une certaine historiographie a voulu laisser paraître. Robespierre est un être incorruptible, un homme politique incorruptible, mais c'est aussi un homme avec sa sensibilité qui aimait Danton, la vertu, et qui a adhéré à l'idéal d'égalité. Alors l'État ne s'est pas manifesté, notre tribune sert aussi à l'avertir pour les fois prochaines, qu'il y ait débat, qu'il y ait transparence, qu'il y ait échange, et si c'est possible, que l'État préempte, puisque ce genre de lettre, ce type de manuscrit est un trésor de papier, il y en a de pierre, il y en a de papier, qui a toute sa place dans nos archives, dans nos musées.
Alors justement, vous évoquez aussi dans cette tribune la possibilité que l'acquéreur dépose cette lettre dans une institution pour que les Français puissent la voir. Est-ce que c'est une option plausible et est-ce que selon vous, c'est le rôle justement de ces documents d'être visibles par tous les citoyens français ?
Eh bien, je dirais que si le citoyen collectionneur privé a acquis cette lettre et qu'il est un citoyen vertueux, il aura le sens de l'intérêt général, de l'intérêt public. Et non content d'observer sous vitre dans son armoire l'unique lettre de Robespierre à Danton, il sera ravi que des enfants puissent la voir sous vitre, par exemple au musée Carnavalet, même temporairement, afin que les professeurs fassent leur travail, c'est-à-dire l'enseignement de notre histoire.
Donc c'est un appel lancé au nouveau propriétaire de la lettre ?
Un appel lancé dans le désert, mais de manière tout à fait officielle.
Merci beaucoup Laurie Chavanette.
Et vous pourrez consulter la tribune parue dans Le Monde sur la page internet de l'émission. Et je rappelle que votre ouvrage, Danton Robespierre, Le choc de la Révolution, est toujours disponible aux éditions Passé Composé.
Merci beaucoup Marie Sorbier. Chaque vendredi cette saison, nous prenons des nouvelles des artistes en résidence à la Villa Albertine aux États-Unis, un programme piloté par Gaëtan Bruel et Emma Butin qui propose des résidences sur mesure à des artistes, mais aussi à des chercheurs, chercheuses de toutes disciplines. Et nous en parlons ce soir avec Léna Blou qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors vous êtes danseuse, chorégraphe, pédagogue, docteur en anthropologie de la danse. Quelques mots tout d'abord quand même sur le guoka, cette danse de Guadeloupe que vous avez découvert à l'âge de 6 ans et que vous avez ensuite étudié de manière scientifique. Quelles en sont les particularités ?
Ben je dirais que la première particularité de la danse traditionnelle qu'on nomme groka, c'est le fait qu'on danse seul, ce qui est assez rare dans une danse traditionnelle. En général, que ce soit en Europe, en Asie, elle est collective. Donc ça m'a interpellée. Et le second élément qui m'a... Même le fait que je savais danser le groka, puisque ça fait partie de mon environnement culturel, c'est le fait que le corps était toujours dans une instabilité permanente, un peu chaotique, et ça aussi par rapport aux critères esthétiques de beauté tels que j'ai été formée, ne correspondait pas aux grilles de lecture de la beauté de l'art, c'est-à-dire l'harmonie, les lignes pures. C'était plutôt un corps asymétrique, cassé, entre guillemets, qui pourrait faire parler de l'esthétique du désordre et du laid. Donc ça m'a interpellée et puis j'ai voulu fouiller, creuser. Et c'est ce qui m'a amenée à faire un travail d'observation, d'analyse pour comprendre à la fois comment nommer cette beauté du corps dans ça et deuxièmement probablement quel sens anthropologique et philosophique que le fait que les gens à un endroit de la Terre dansent le désordre. Voilà.
Alors, c'est que ces questions vous ont amené à au moins deux réponses, Léna Blue, une nouvelle technique corporelle, technique K, et un concept que vous avez nommé le Bigidi. Comment est-ce que vous pouvez nous le résumer?
Bigidi, dans un premier temps, c'est le fait de comprendre que tout individu, à un moment donné de son histoire personnelle ou collective, connaît un déséquilibre, connaît une imprévisibilité de la vie. Je prends que l'exemple le plus probant, c'est la Covid-19. Je crois que tout le monde comprend qu'on n'était pas préparé à ça. La seule chose que nous apprend comme enseignement la danse Goka que j'ai emmenée sur le plan ontologique et philosophique, c'est que l'être humain a des ressources pour s'adapter. C'est que je crois que c'est ce que j'ai compris, c'est que nous sommes nés d'une histoire que tout le monde connaît, qui est l'histoire coloniale et esclavagiste. Et je pense que l'intelligence humaine de ces hommes qui ont subi cette histoire de part et d'autre ont eu l'intelligence probablement d'accepter le chaos, le déséquilibre, pas en la confrontant, mais en la phagocytant, j'ai envie de dire en dansant avec, parce que ça fait appel systématiquement à l'adaptation. La seule chose qu'il faut retenir dans cette notion théorique du Bigidi, c'est qu'importe la solution qu'on trouve, l'important c'est de rester debout. Et comme je dis souvent, même de manière bancale, mais ça nous permet d'avancer. Donc en fait, c'est un hymne à la vie. Et je crois que c'est pour ça que le Bigidi, le fait que je sois en résidence aux États-Unis ou partout où je vais, résonne et fait du sens et dépasse le principe d'espace culturel caribéen, gros cas. Touche l'humain parce que je crois que ça rappelle à l'individu qu'il a les ressources extraordinaires en lui pour faire face aux défis de la vie parce qu'on en connaît tous. Je crois que c'est ça que je retiens comme aspect philosophique du Bigidi et que j'essaye de transmettre soit à travers la technica, c'est-à-dire les masterclass, la danse, ou soit à travers des conférences ou même à travers les spectacles. Et je sens bien que les gens retiennent cette leçon de vie.
Parce qu'à vous entendre, on sent qu'il y a pour vous un lien entre la philosophie du corps et la philosophie sociale. Mais du coup, quel projet avez-vous imaginé, Léna Blue, pour cette résidence à la Villa Albertine? Qui avez-vous souhaité rencontrer, par exemple?
Alors, dans un premier temps, je suis sur la ville de Houston. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai fait un premier travail avec... Enfin, mon intérêt, c'est de rencontrer autant les artistes, puisque je suis une artiste, mais aussi les chercheurs. Donc, j'ai commencé par les artistes. Donc, je travaille avec une compagnie avec 12 danseurs où je leur ai transmis essentiellement, pas tellement la technique, mais la philosophie du Bigidi. Et j'avais envie de voir comment ils allaient traiter, en termes de création, cette esthétique du désordre. Et c'était assez extraordinaire parce que, au-delà du résultat artistique, mais j'ai trouvé, et c'est ça ma lecture, c'est comment des corps exogènes à la culture Groka deviennent des corps K. Donc ça prouve bien qu'il y a une forme, entre guillemets, d'universalité de la théorie du Bigidi. Comme je l'ai dit précédemment, tout le monde connaît un Bigidi, en fait. Et l'intérêt, c'est que les gens perçoivent ce que j'appelle la reprise, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, cette phase d'adaptation. Et c'est extraordinaire de voir des corps qui ne connaissent pas le Goka, comment ils s'emparent de cette esthétique et ils en font leur propre esthétique, leur propre lecture. Donc ça, c'était extraordinaire. Et le second temps, c'est avec des chercheurs de tous bords, en littérature francophone, des historiens de l'art, des sociologues, etc. Et on a fait un panel juste de discussion et d'échange où je leur transmettais les concepts, c'est-à-dire les enseignements à partir de cette tradition. Et ça poussait la recherche et chacun trouvait en fait leur réplique, comment ils allaient rebondir à partir de la théorie du Bigidi, comment ça pouvait faire sens dans leurs propres travaux de recherche. Voilà où j'en suis pour l'instant.
Bon, mais nous, on suivra évidemment l'évolution de votre travail, Léna Blue. On a hâte de voir ce qui se dégagera de cette résidence à la Villa Albertine. Et puis nous, vendredi prochain, on prendra des nouvelles d'une ou d'un autre résident. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Como, Marie Sorbier, Lise Ripoche et Apolline Limosino.